Oui. Thibaut Cornillo va venir nous parler des, sur un registre un petit peu différent. Donc, il y a un petit peu une rupture dans la construction de cette session de ce matin. Il y a une grande homogénéité jusqu'ici dans la présentation de la, des problématiques de représentation du cerveau dans la perspective du développement des sciences cognitives. Et vous avez vu comment on est parti d'un panorama général pour aller jusqu'à des points extrêmement particuliers d'épigénèse. Et maintenant, nous allons faire une ouverture en fin de session sur des problèmes plus généraux et qui sont liés à la philosophie également de la technologie. Je laisse la parole à Michel Thibon-Cornillo.
Oui, alors effectivement, la rupture est très grande et puis c'est la fin de la matinée, donc ça va certainement être très fatigant. Enfin, si vous êtes aussi fatigué que je le suis, eh bien, ça va vraiment pas être facile. J'ai décidé de ne pas vous présenter l'ensemble de mon intervention qui s'appelle « Le déferlement des techniques contemporaines, remarques sur la mobilisation générale des organismes ». Parce qu'en effet, la rupture de ton et de concept est inouïe. Je veux dire par là que je vois bien que les discours dominants actuels dans les neurosciences, mais en partie aussi dans les sciences sociales, sont complètement sous l'influence de ce qu'on nous a présenté et qui prend des formes, qui est protéiforme du reste, le cognitivisme, le connexionnisme, des apports qu'il faudrait du reste présenter avec les soubassements philosophiques de type Wittgensteinien, de type pragmatique de discours, etc., dans des contextes qui sont fondamentalement des contextes anglo-saxons, même si Vienne et quelques auteurs allemands, Ernst Mach, etc., ont pu jouer un rôle. Et du reste, c'est toujours très intéressant, ce que j'essaie de dire à mes étudiants, que d'avoir les soubassements histoire de philosophie de tous ces débats. Alors, je voudrais plaider pour autre chose. J'ai une formation scientifique. J'ai eu la chance, que je considère comme inouïe, de pouvoir faire des mathématiques et, venant de province, m'étant lié d'amitié avec René Thom, de pouvoir participer à des séminaires sur la question de la complexité à un moment où les problèmes, où les mathématiques allaient franchir une étape, en tout cas chez nous, avec le retour des mathématiques de l'ingénieur, des questions du chaos, etc. J'étais là-dedans comme observateur, parce que je n'avais pas toujours les moyens. Et ensuite, ayant fait de la biologie et travaillé comme généticien à l'Institut Pasteur. Alors, voudrais aller très très vite dans un contexte philosophique, entre guillemets, qui est complètement différent et qui est celui de ce que j'appelle, vous voyez, j'ai abandonné toutes mes affaires anciennes, la pensée critique continentale. Pensée critique continentale dont je vois des liens étant de langue allemande à l'origine chez la philosophie romantique allemande, je pense à Schelling, et passant par Schopenhauer, Hartmann, Nietzsche, et puis Heidegger, bien sûr, les gens qui sont issus de Heidegger et que vous connaissez aussi bien que moi, Anna Arendt, Günther Anders, etc., c'est-à-dire la critique du développement des sciences et des techniques. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai introduit le concept de déferlement, qui est la traduction d'un concept allemand de Brandung. Brandung, qui signifie le ressac, et que j'ai extrait d'un auteur marginal et que j'aime beaucoup, et qui s'appelle Ernst Jünger, auteur qui a mauvaise presse en Allemagne, mais qui est un auteur qui fit partie des premiers opposants les plus importants à la dérive national-socialiste. Je rassure tout le monde. Alors, je vais simplement vous parler de mon introduction, et puis, si j'ai le temps, je développerai un texte que je ne voulais pas présenter, qui est paru dans la revue L'Écologiste, qui s'appelle « À propos du naufrage des sciences de la vie ». Je vous en donnerai peut-être quelques petits passages, qui porterait donc sur la question du réductionnisme et de la complexité du vivant. Alors, je voudrais dire dans « Le déferlement des techniques contemporaines, remarques sur la mobilisation générale » que j'ai introduit dans le titre deux concepts qui renvoient à des environnements conceptuels marqués par la puissance, l'efficacité, mais aussi la démesure. Déferlement, mobilisation générale, marque et sert de sas, selon moi, pour entrer dans le monde des savoir-faire techniques contemporains, de leur réalisation et particulièrement biomédicale. À ce propos, je voudrais attirer votre attention sur un autre point, à savoir que la conception classique des techniques, particulièrement l'interprétation dominante dans l'université française, en a supprimé toute possibilité d'autonomie. Je vous rappelle que les phénomènes techniques, si vous voulez faire un retour en arrière, dans l'immense complexité de la conscience dans tous les étages, dans ces structures avec la langue, première universelle, eux-mêmes, langue dont les supports sont sans doute neuronaux, et puis, etc., etc., dans cette immense complexité sur laquelle nous connaissons absolument rien, mais que vous allez exercer immédiatement par un retour sur vous-même et intérieur, les phénomènes techniques sont évalués en fonction de leur lien avec la rationalité. Les techniques, vous savez, dans l'ensemble, sont devenues ce qu'on appelle des technologies, et le terme de logos est, comment dire, appliqué à des pratiques si diverses et si anciennes, n'a pas permis l'apparition d'analyses capables de rendre compte de la spécificité des savoir-faire techniques. Vous voyez que chaque fois qu'il y a apparition du mot logos, on a apparition de quelque chose qui touche aux sciences, à la rationalité. Donc les techniques technologiques dans l'université, encore maintenant, sont réduites au statut subalterne de servantes des sciences. Pire encore, elles peuvent même devenir des sciences appliquées et à ce moment-là disparaître en tant qu'activité autonome. Passer dans le langage commun, cette approche domine donc l'ensemble de tous les discours qu'on peut tenir, y compris celui qu'on a entendu. Eh bien, je dirais, à propos du reste de cet ensemble industrie, science, technique, qui s'est mis en place depuis 5 siècles, à peine, puisque ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que les techniques sont datées, en tout cas, si l'on croit la paléontologie, à 5 millions d'années. Les sciences modernes sont parfaitement, figurées et... pointé dans leur apparition avec des textes qui sont disponibles à 5 siècles environ, en tout cas dans la présentation faite par les Italiens et les Français, enfin des gens de langue française et de langue italienne. Je fais allusion ici à Galilée, mais aussi à Descartes, à Marin Mersenne et à tous ceux, à Pascal, etc., qui tous résistent à la fois aux néoplatoniciens, le désaccord total avec Giordano Bruno, bien sûr, et à cette extraordinaire expérience et développement de la rationalité qu'est la pensée néo-aristotélicienne. Alors, ce contexte, les difficultés qui ont été rencontrées socialement entre sciences techniques et industrie ont été traitées et ont permis l'apparition et le développement de points de vue sur la rationalité qui ont été de moins en moins instrumentalisés, je vais très vite, de plus en plus du côté de la régulation. Mais toujours avec cet optimisme extraordinaire progressiste que vous connaissez aussi bien que moi, sur l'avance des sciences, sur l'industrie et sur ce modèle occidental qui est le nôtre. Vous savez que dans ce contexte, je vais très vite, des kantismes, néo-kantismes, idéologie anglo-saxonne, Habermas, etc., se situent dans ces contextes régulateurs. Un point de plus dans mon introduction. Et depuis quelques décennies, vous le savez encore mieux que moi, le surgissement de performances techniques originales ont marqué un certain nombre d'événements. La puissance démesurée d'un certain nombre de performances techniques ne peut plus être abordée en termes de régulation et intégration, car c'est bien plutôt l'affleurement d'une puissance croissante qui est devenue la question décisive. En un mot, l'interrogation centrale à propos des techniques contemporaines, je vous propose cette phrase, ne concerne plus d'abord leur régulation, mais leur déferlement sans mesure. Il faut sans doute remonter jusqu'à la Première Guerre mondiale pour repérer ce que j'appellerais un grand passage. Et cela se voit d'abord par les membres du corps social qui sont les plus sensibles, c'est-à-dire des artistes, des philosophes ou des écrivains. non pas que je veuille dire que les scientifiques aient l'écorce plus dure, mais disons qu'ils peuvent, dans la vie privée, l'avoir plus fine, ça c'est vrai. En tout cas, ce sont eux qui ont vu ça, et vous savez comme moi que les surréalistes, le mouvement surréaliste n'a pas d'autre origine que l'horreur de la Première Guerre mondiale, dont vous connaissez tous bien sûr les chiffres, pour un pays comme la France, sachant que nous avons eu un recensement au début 1914, il y avait 39 millions d'habitants, 13 500 000 environ personnes adultes, masculins, entre 18 et 55 ans, et qu'à la fin de la guerre, officiellement, les chiffres ayant été du reste contestés parce que considérés comme profondément sous-estimés, il y a eu 7 500 000 adultes entre 18 et 55 ans et qui ont été blessés, gazés, tués, mutilés. Du reste, ça a permis l'essor, vous savez, des neurosciences, puisqu'il y a dû y avoir à peu près 400 000 trépanés et possibilité donc d'intervention, de continuer le travail de Bichat sur les localisations. Alors, je disais ça parce que, non pas du tout pour me complaire dans je ne sais quoi, c'est simplement parce que c'est bien de parler des sciences, des techniques et de l'industrie, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a eu un débat au cours du XIXe siècle, mais surtout après la guerre de 14, où un certain nombre de personnes tout à fait importantes pour nous, donc le mouvement surréaliste et breton, est entièrement fondé sur le rejet total et absolu des sociétés industrielles. La prise de conscience que les sociétés industrielles, je dis clairement, une impasse culturelle. La reprise heideggerienne, dans un contexte bien différent, est évidemment complètement enracinée dans ce courant philosophique auquel je faisais allusion, prévu et qui était indiqué par Friedrich Nietzsche dans ses analyses du prochain millénaire, avec ce thème du XXe siècle, le siècle des grandes guerres meurtrières, ces paroles. Alors, je voudrais terminer sur ce point, non pas pour enfoncer le clou, mais pour indiquer, parce que je ne vais donner que l'introduction, je voulais reprendre la phrase qui pour nous est plus proche de nous, celle de Edward Teller. I am making an alarm clock that will wake up the world. J'ai fabriqué une horloge qui va réveiller le monde. C'est donc lors d'un interview célèbre, après la première explosion de la bombe à hydrogène Teller-Ulam, puisque c'est l'un des fabricants de la bombe à hydrogène. Vous connaissez là, je ne vais pas revenir trop longtemps, je voudrais simplement vous rappeler que la première série d'essais Castle, le 1er mars 1954, explose dans l'atoll de Bikini la bombe nommée Castle Bravo, qui devait tester pour la première fois les nouveaux dispositifs fabriqués à partir de la configuration Teller-Ulam. Dispositifs qui serviront pour l'ensemble des bombes à hydrogène à venir. Alors la puissance prévue était de 5 mégatonnes, et c'est-à-dire, comme vous le savez, l'équivalent de 5 millions de tonnes de trinitrotoluène, et la production malheureusement inattendue de grandes quantités de tritium issues de la fission électronique du lithium amplifia le rendement de 250%. La puissance observée fut en réalité équivalente à 15 mégatonnes, et le cratère faisait 2 km de diamètre. En quelques secondes, la boule de feu initiale, développant plusieurs milliers de degrés, je reprends ici l'interview, atteignit un diamètre de 5 km. Vous savez que les colonnes d'eau dans le Pacifique faisaient régulièrement, lors de cette campagne d'essai, 3 à 5 km de large. Des colonnes d'eau. Et se vaporisaient, bien évidemment, dans la très haute atmosphère, ce qui, je vous le rappelle aussi, signifie que nous avons les pollutions, une bonne part des pollutions pour le moment, derrière nous. Et à rappeler aussi qu'à 250 km à l'est, dans l'île de Rongerik, à 250 km à l'est de la déflagration, les observateurs qui ont tous présenté leurs observations ont vu une lumière qui a embrasé tout l'horizon, un grondement interminable qui fut accompagné une minute après d'un tremblement de terre. Et vous savez qu'il a fallu à ce moment-là, à la suite de ce désastre, interdire un territoire de 900 000 km² correspondant à une surface de 1% de la surface des terres émergées. Pourquoi j'ai insisté là-dessus? Parce que vous avez là une très très belle manifestation de ce qu'on appelle un effet de déferlement. les fêtes d'éferlement, c'est-à-dire à un moment où des techniques reprises dans la rationalité scientifique, née il y a 5 siècles, encadrée par tous les fonctionnaires, les militaires, tout ce que vous voudrez, des gens raisonnables, manifestent que rien, que beaucoup de choses ont échappé à l'intérieur même des procédures techniques. Elles n'ont pas été vues. Et ces procédures, ces affaires qui n'ont pas été vues, relèvent précisément de l'expérience du déferlement. Je voudrais simplement vous signaler que, à la suite des campagnes qui ont eu lieu dans le Nevada et le Nouveau-Mexique, 136 essais atmosphériques qui s'étalèrent sur 12 ans, par exemple, à partir de 51, il y a eu des contaminations contaminations considérables. Et à cet égard, il faudrait noter que les usines Kodak, situées à plusieurs milliers de kilomètres de l'endroit des explosions, ne pouvaient plus produire de négatifs, étant donné l'importance des stries produites par des particules à haute énergie et qui, venaient affecter la fabrication des négatifs. C'est un point intéressant parce qu'il aura fallu arrêter pendant un bon moment leur production. Et je voudrais simplement vous dire cela parce que ici nous sommes hors dimensionnalité humaine. Nous entrons dans des domaines qui se sont cette fois-ci clairement manifestés et qui doivent absolument, pour la réflexion, je dirais même épistémologique et politique, devraient être pris en charge, et qui le sont fort peu, malheureusement. Donc il faut modifier sans doute le regard sur les techniques contemporaines, déplacer les questions. De nombreux phénomènes ne relèvent plus des approches en termes de régulation, mais doivent être analysés en fonction de leur déferlement, c'est-à-dire de leurs effets incontrôlables dans des domaines aussi différents que ceux du nucléaire civil, de la reproduction humaine, des modifications génétiques, de l'épuisement des écosystèmes, de la puissance des armements et au passage de l'étendue des crimes collectifs. Manifestations de puissance qui ne sont pas visibles, de phénomènes qui ne relèvent plus des sens humains, de type radiation, de type onde. Et c'est là le terme de Brandung ou de Ressac, dont la manifestation concrète pour nous tous à l'intérieur du champ social se donne en venant frapper des structures, elles, qui sont bien visibles. Vous voyez, le Ressac, la puissance de la houle ne se manifeste pas, sauf cas particulier, si vous êtes sur un bateau au milieu de la mer. Si la houle vient frapper des bancs de rochers, vous en voyez tout de suite la force. C'est la rencontre ici de deux milieux. Je prendrai une autre comparaison. Les ondes électromagnétiques ne sont absolument invisibles. Pourtant, si vous mettez un capteur qui concerne une toute autre structure que celle des ondes électromagnétiques, vous voyez apparaître des images. Et ce qui, pour les ondes radio, n'est pas notre cas, sauf peut-être, je donne ça peut-être à l'usage des psychiatres, quelques personnes qui ont peut-être des structures cérébrales qui leur permettent d'avoir un récepteur particulier, leur faisant écouter des voix. Question qu'on peut peut-être pas ignorer. Bon, j'ai terminé avec mon introduction. J'ai voulu la recherche que j'essaie de mener autour de ce thème, qui me passionne beaucoup, se déroule dans deux directions. L'une qui concerne le problème de l'autonomie, comment penser l'autonomie des techniques. Et c'est depuis 22 ans maintenant, j'enseigne et je développe cette affaire à l'école et aux études en sciences sociales. C'est extrêmement difficile dans la tradition française, on est très peu nombreux. Comment penser l'autonomie des techniques? C'est une problématique allemande essentiellement, autour de un certain nombre de noms que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Je pense surtout à Ernst Kapp, qui est un élève de Hegel, de Karl Ritter, qui a lu Schopenhauer et qui a écrit en 1871 un livre tout à fait remarquable qui s'appelle « Les fondements pour une philosophie des techniques ». Livre qui fut lu par un certain Espinas à Strasbourg, qui eut une honneur de gloire au début du XXe siècle, et que le roi Gourand, voilà un nom déjà plus connu, l'un des grands de la paléontologie française, a développé c'est-à-dire la question de qu'en est-il des techniques dans le processus d'hominisation, étant donné l'extraordinaire champ temporel les caractérisant à 5 millions d'années, et qui en aucune manière ne permet, par un, comme ça, un revers, un claquement de doigts, de les réduire au statut de technologie. Encore faut-il bien comprendre que ça veut dire que des techniques et la créativité technique et le rôle des objets techniques, etc. Donc voilà une direction qui est dominée par des thèmes tout à fait passionnants qu'il faudrait développer et que je ne peux pas faire maintenant. Entre autres, la notion de organe projection, de projection organique, et un thème sous-jacent qui est celui de l'origine biologique des techniques. Proximité du corps, origine biologique des techniques, avec cet extraordinaire développement, parce que tout n'est pas à apprendre sans doute chez le roi Gouvant, et qui est que les techniques se caractérisent par deux mouvements. Je vais résumer. Le premier qui est celui l'invention d'un groupe d'outils est l'équivalent d'une spéciation. Et le deuxième, tendance générale des techniques à être exsudées hors du corps humain et de permettre de maintenir la disponibilité du corps. Je vais développer peut-être tout petit peu la question un groupe d'outils et l'équivalent d'une spéciation, en rappelant que pour lui, la dérive génétique qui mène à l'organisation des félidés et au parcours par les félidés d'un certain type de niche écologique. Je ne rentre pas dans les détails parce que là, je suis darwinien strict, mais cela dit, je ne voudrais pas que vous croyiez que tout d'un coup je serais devenu un martien. J'ai bien dit dérive génétique, je n'aurai pas le détail, menant à un parcours dans une niche écologique. La préhension dans cette histoire interminable des outils chez l'homme, d'une griffe au bout d'un bâton, donne la possibilité aux hominiens, à ce petit primate à glapissement codé, comme disent certains, lui donne la possibilité de parcourir site des félidés. Vous lui mettez une pierre au bout d'un bâton et le voilà animé de la force musculaire de l'orang-outan. Il contrôle et dresse les chevaux et voilà que 3 millions, 10 millions, 15 millions de dérives génétiques qui ont mené aux équidés, à la gueule basse, à des dentitions bien particulières, et vous voyez bien les équidés, je parle du cheval, et bien le voilà qui parcourt de façon infatigable de très grandes distances, et que le petit dominien, donc, tout d'un coup, se met à parcourir la même niche écologique que lui. Remarque, vous voyez, qui est entièrement fondée sur des développements magnifiques de Leroy Gourhan sur la détachabilité des outils. Exsudation, détachabilité des outils. On voit bien comment la station debout, puisqu'il fut l'un des premiers à parler de cela, l'organisation de la station debout comme le véritable mouvement d'hominisation libère un espace avant. Et cet espace avant, alors vous comprenez bien qu'il n'y a ni cause ni effet dans tout cela, mais des filières de détermination dont nous ne connaissons rien. Mais qu'en est-il de la libération d'un espace avant, d'outils apparaissant et détachable, etc. Tout cela peut-être sans langage, vous voyez, comment ça se passe, personne ne sait, tout ça. Donc c'était là sa première affaire. La deuxième, c'était qu'on s'apercevait, selon lui, qu'au fur et à mesure de la création de ces outils, etc., il y avait une tendance générale, et peut-être se trompe-t-il, il y avait peut-être des impasses, pour que les hominiens, entre guillemets, quelles que soient les cultures auxquelles ils appartiennent, avaient tendance à produire des structures extérieures. Vous voyez, l'invention de la noria, la prise en charge des énergies du monde extérieur, le vent, les chutes d'eau, etc., pour essayer de propager, de mettre en extériorité des groupes d'outils et par là même d'éviter de se spécialiser, de devenir des gros bestiaux spécialisés, Voilà, donc, bien écoutez, c'était la première direction que je voulais explorer avec vous, celle que je fais dans ma recherche. La deuxième, à propos du déferlement. Donc, la question du déferlement, je n'ai pas dit que les techniques produisaient des effets de déferlement. Je dis simplement que la formidable, le caractère incroyablement involontaire des techniques, leur ancienneté, nous plonge encore maintenant dans des situations archaïques sur lesquelles nous ne connaissons rien, sauf l'immense prétention de les appeler des technologies. L'immense prétention. Et le deuxième aspect, qui est alors à mon avis plus au cœur du déferlement, c'est la reprise de ces techniques, de cette créativité technique, par des, entre guillemets ici, des structures symboliques, appelées comme vous voulez, ou imaginaires, des sciences modernes, qui sont, elles, entièrement dominées par la question de l'infini ou de l'indéfini. C'est-à-dire que l'une des oppositions essentielles de l'apparition des sciences modernes, dans le rapport aux aristotéliciens, c'est précisément, parce qu'elles ne sont pas nées comme ça du ciel, elles sont précédées et complètement, pilotées, surdéterminées par la fin de l'interdiction du prêt juraire, qui est, pour Aristote, quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, dans le texte de la politique d'Aristote, des textes absolument magnifiques, dans lesquels il dit qu'à partir du moment où les hommes prêtent à intérêt et donc se lancent dans l'accumulation de l'argent prêté pour l'argent, dans l'accumulation de la richesse indéfinie pour elle-même, sans rechercher des biens limités, puisque la richesse en elle-même, pour Aristote, est bonne, en tant qu'elle apporte des jouissances supplémentaires pour chaque citoyen. Et que des hommes, comme il le dit, soient si fous qu'ils le fassent, cela, cette recherche, ça s'appelle la crématistique. Ça s'appelle vouloir l'infini. Or, comme dit Aristote, l'infini est une idée folle. Comment des êtres finis, ayant une raison finie, qui meurent, qui souffrent, qui se reproduisent, pourraient-ils vouloir l'infini ? On a affaire ici à une bataille qui a lieu 450 ans avant notre ère, et qui est une lutte contre, bien évidemment, les monothéistes créationnistes, et que Aristote relie complètement à la crématistique financière, mais aussi la volonté chez lui de rendre compte de la question technique, puisque pour lui, les techniques se caractérisent par le fait qu'elles sont illimitées. C'est-à-dire que ce qui caractérise le jugement technique, c'est d'aboutir à un résultat qui est un résultat intermédiaire pour toute autre chose, c'est-à-dire la production de filières indéfinies d'actes techniques. Et pour lui, arrêter cette indéfini, infini, l'appelle-t-il, des techniques, ne peut être fait qu'en interdisant de donner quelque valeur que ce soit dans les débats publics. Alors là, je suis en train de m'avancer, je vous renvoie au premier chapitre, au premier livre de La politique d'Aristote, qui est un texte tout à fait extraordinaire, sur le problème de l'infini. Toute culture qui recherche systématiquement l'infini au niveau financier, au niveau technique, je résume, est perdue. Elle est perdue, elle n'existe plus, et elle ne peut se réunir que sur la domination et la tyrannie. Telle est la position aristotélicienne. Alors j'ai terminé. Le deuxième point du déferlement, c'est que l'ensemble des techniques modernes, l'ensemble des sciences modernes, de la recherche indéfinie, la curiosité inlassable qui anime et à laquelle nous participons, relève de quelque chose d'absolument caractéristique de notre culture, l'indéfini des spéculations financières, l'infini des mondialisations superposées les unes sur les autres, l'universel des modèles, et je ne cherche pas du tout à porter des jugements de valeur en ce moment. J'essaye de parler depuis le noyau, vous voyez, je suis un peu arrogant, le noyau auquel nous participons tous, des Blancs occidentaux, descendants de ceux qui ont fondé les sciences modernes. Alors peut-être pouvons-nous dire quelque chose. Je voudrais simplement dire qu'il y a là donc une course, une volonté de curiosité qui, mis au service de la créativité technique est peut-être l'un des éléments, je propose ça absolument comme hypothèse, de ce que j'appelle le déferlement. Alors ça, c'était une introduction. Vous voyez que j'ai bien fait de ne pas donner le texte. Ça aurait duré extrêmement longtemps. Ça fait combien de temps, je ne sais pas.
Une demi-heure.
Une demi-heure.
Une demi-heure.
Alors, est-ce que je peux...
on peut lancer la discussion en même temps, non?
Oui, est-ce que je peux, en 5 minutes, parler de, quand même, une réaction par rapport à ce que j'ai entendu?
Mais c'est bien, ça lancera la discussion comme ça.
Comment?
Ça lancera la discussion avec...
J'espère, oui, arriver à lancer.
Un quart d'heure, pas
plus tard. J'ai écrit un texte, le titre m'a été un peu imposé, parce qu'il est un peu au-delà de ce que je pense. Il s'appelle « À propos du naufrage des sciences de la vie ». Alors, c'est beaucoup plus modeste que le titre. Je voudrais simplement dire que, vous savez comme moi, donc je change complètement de registre ici. Et je voudrais répondre un peu à ce que j'ai entendu avant. Je ne sais pas du tout si c'est une réponse. C'est une question que je vais poser. Et il y a, comme vous savez, une grande méfiance des consommateurs et de nombreux acteurs politiques et autres à l'égard des développements des sciences et des techniques, pour des raisons multiples, et pas forcément parce qu'ils ont entendu mon texte, ce que j'ai dit sur le déferlement. Et tout cela s'est vu à propos, bien évidemment, des OGM, mais aussi, bien évidemment, à propos de tout ce qui concerne la fécondation. La question de la fécondation, la question des tests génétiques, préimplantatoires, etc. Alors, je me suis posé la question dans ce texte de savoir si les sciences et les techniques modernes peuvent élaborer, à partir de leur propre logique et de leur dynamique, des questions portant sur leur dangerosité, leurs limites, en un mot, sur leur capacité d'autorégulation. Et ma réponse, vous vous en doutez, est non. Et j'ai voulu le montrer à propos de la génétique moléculaire, secteur que je connais un peu mieux. Alors, je partirai simplement à ce propos d'une remarque du père de Dolly. Le père intelligible de Dolly, c'est-à-dire Jan Wilmut, et qui interviewait dans un interview assez célèbre sur la fabrication de Dolly, dit exactement « Ce résultat est une surprise, mais le plus incroyable, c'est notre incompréhension des mécanismes moléculaires du clonage. » Et pour ceux qui ont suivi dans la presse et qui ont essayé de lire les articles, on s'aperçoit que, effectivement, les éléments techniques sont omniprésents dans toute la chaîne de la fabrication de ce clonage. Et encore une fois, ce n'est absolument pas une position critique bête. C'est au contraire une créativité technique tout à fait extraordinaire. Alors, cet aspect technique, intuitif, manipulateur, qui précède sans cesse le mouvement des concepts en biologie, qui lui ouvre des voies nouvelles, se lie aussi très bien dans la découverte et le développement des techniques du génie génétique. Alors, pour ceux qui savent, et pour les autres, les génies génétiques ne se confondent en aucune manière, bien sûr, avec les événements, enfin, ils en sont proches, mais ne sont tout à fait autre chose que ce qui se passe, ce qui s'est passé en 52, autour de la découverte de la double hélice et du code génétique. Le génie génétique représente très exactement ce qu'on appelle une création technique. Je m'explique.
Peut-être sur
un cœur du problème.
Et comme ça qu'on puisse finir sur un échange.
Je voudrais simplement dire que la situation de création des OGM à tous les niveaux est dominée par ce qu'on appelle les techniques du génie génétique. Et nous avons, du temps où j'étais à l'Institut Pasteur avec Antoine Danchin et d'autres, je faisais un séminaire sur cette question-là. Et chacune des étapes du génie génétique aboutit à la reconnaissance de ce dispositif créatif et complètement non compris, pour des raisons très précises. C'est que si vous perméabilisez les membranes pour introduire des éléments avec des véhicules moléculaires porteurs de gènes, vous les perméabilisez, vous ne savez pratiquement rien sur ce que sont des parois cellulaires, ou très peu de choses, dans lesquelles des échanges extrêmement compliqués sont en place, etc. Et par contre, on travaille sans arrêt au niveau statistique. Je veux dire par là que ce qui est indispensable à mes yeux en biologie, et ce que nous avions sans arrêt prêché, c'est que les objets de la biologie, en tout cas la génétique moléculaire, sont tous des objets hyper complexes. des objets qui ne sont pas formalisables.
Peut-être.
Et
juste un mot de conclusion, comme ça on peut.
D'accord, écoutez, à partir de là, je voulais simplement dire que pour moi, la génétique moléculaire et toutes ses performances sont fondamentalement dominées par des techniques. Et que la possibilité de formaliser, de comprendre ce qu'on fait en génétique à l'heure actuelle tend de plus en plus vers une situation très délicate. Le deuxième point, c'est vraiment la fin. C'est précisément cet écart entre le bagage conceptuel disponible en génétique moléculaire dans les laboratoires et l'intensité et le caractère créateur du génie génétique, au sens technique du terme, qui n'a pas besoin de passer par des concepts. Vous l'avez compris. Et c'est précisément de là qu'est née la possibilité de l'introduction d'un troisième terme qui est les circulations financières. C'est précisément parce que la recherche fondamentale ne peut pas, pour le moment, se développer, que les résultats obtenus sont cependant extrêmement importants, qu'on a assisté dans les 20 dernières années, j'ai assisté à ça en acteur privilégié à l'Institut Pasteur, à une arrivée massive d'anciens collègues travaillant pour les entreprises privées et qui ont proposé, des capitaux. Et vous connaissez tout ça, encouragé du reste par les différents ministères. Voilà une situation que je présenterai à votre.
Voilà. Merci beaucoup. Donc je voudrais. On a 5 grosses minutes, puisqu'il faut ensuite se diriger vers la cafétéria qui n'est pas loin, donc pour un déjeuner vers 13h, comme on avait dit. Une information peut-être avant.
Oui. Quand vous irez vers la cafétéria, je ne vous retiendrai pas. Donc, une simple information. La librairie des nouveautés Place Bellecour a installé un stand d'exposition-vente de livres qui sera là toute la journée, ainsi que demain matin. Vu qu'au restaurant, il y aura forcément un petit peu de queue pour les plateaux, ceux d'entre vous qui voudraient consulter quelques livres avant de se diriger vers le restaurant, s'ils ne sont pas trop pressés de déjeuner, le peuvent. Sinon, ce sera là. Après le restaurant, le café sera servi ici et non pas au restaurant. Comme ça, ce sera déjà une manière de vous introduire à nouveau dans l'amphithéâtre en ne craignant pas la dispersion trop longue au restaurant.
C'est une cafétéria-librairie, comme il se doit dans une école normale. Mais une réaction
Merci. Je voulais vous poser une question sur la sémantique. C'est-à-dire, vous avez donc utilisé le mot « Brandung » en le traduisant par déferlement. Alors, je m'interrogeais, c'est-à-dire sur donc l'original, le mot « Brandung » comporte aussi, enfin, dans sa racine, le mot « Brand », c'est-à-dire « incendie ». Et donc, en fait, dans le terme allemand, il y a à la fois utilisation, donc par des métaphores, l'effet de l'incendie et l'effet de la déferlante. Et alors, il y a un troisième terme, en quelque sorte, « Brand »,« Brandung », donc, et puis « Brandstifter », donc, c'est-à-dire celui qui peut déclencher. Là, on ne peut pas déclencher une déferlante, on ne peut pas déclencher un ressac, mais on peut déclencher un incendie. Et donc, je me demandais si, dans le terme allemand, il y a implicitement, il n'y a pas aussi cette notion de pouvoir déclencher Brandung, Brandstifter, qui est donc, enfin, pyromane, mais ça rejoint aussi l'image de l'apprenti sorcier chez Goethe, c'est-à-dire avec les eaux. Je m'interrogeais sur votre terme est plus neutre que le terme allemand, peut-être. C'est-à-dire, déferlement, c'est quelque chose qu'on subit. Et le mot Brandung, Brand, c'est on cherche aussi celui qui éventuellement déclenche des effets involontaires ou pas.
Écoutez, je réponds très très rapidement. J'utilise le terme sans aller chercher aussi loin que les racines Brandt et tout ça, dont je ne sais du reste absolument pas, parce que je crois que c'est un peu différent. Et je n'y voyais pas. Je pense qu'effectivement, le terme de déferlement est assez bon. Il rend bien compte de quelque chose qu'on ne comprend pas et qui est hors dimension. Et je propose à la réflexion de chacun, en tout cas pour les scientifiques, un jour, pour certains, d'inscrire la question scientifique, entre guillemets, en tout cas rationnelle, de qu'est-ce que c'est que le déferlement.
Hubert Vincent.
J'aurais deux questions. Une pour vous, Michel Thibon-Cornillo. Si le concept de déferlement renvoie un doute sur la notion de régulation, capacité à la technique à se réguler elle-même et de nous à la réguler, en quoi ce concept est-il finalement ou apporte-t-il quelque chose de nouveau par rapport à ce que Hans Jonas avait analysé en son temps, quoi. Donc, c'est la première question. Puis ma deuxième question, elle touche Marc Jeanneret. Bon, si je peux me permettre, hein, bon, ce sera très bref.
Non, je t'en prie.
Vous avez référé au début de votre exposé quand même à une phrase de Socrate. Quoi,
comment ?
Vous avez référé à Marc Jeanneret. Vous avez référé le début de votre exposé à une phrase de Socrate, référant à la connaissance de soi. Et dans la tradition philosophique, la connaissance de soi, elle est d'emblée référée à une méconnaissance de soi. Bon. Et il m'a semblé, et c'est par ça que j'étais intéressé par votre exposé, que l'expérimentation faite sur un sujet met très bien en valeur une certaine méconnaissance de soi entre le corps et le regard. Bon, et vous l'avez très, et ça montrait très bien ça. Alors ma question porte sur l'interprétation exacte que vous donnez à cette méconnaissance de soi. Bon. Est-ce que vous la renvoyez uniquement à la schizophrénie, ou c'est ce qui m'a semblé, hein, bon, ou bien est-ce que vous la renvoyez aussi à une structure plus générale du sujet humain que, par exemple, Socrate aussi exemplifie en se référant à son génie, et pour lui, c'était plus qu'une métaphore. Donc ma question, c'est ça. Quelle est, pour vous, et l'interprétation qu'on peut faire de cette méconnaissance de soi que vous avez montrée entre le corps et le voir, et est-ce qu'elle renvoie qu'au schizophrène, ou bien est-ce qu'elle renvoie à une structure du sujet humain qui est constitutive de lui-même, quoi. Donc voilà, double.
Si je peux vous demander une réponse brève, pour que nous ayons le temps de prendre une dernière et ultime question après. Gérard, tu peux donner le micro à Marc.
Oui, ce que j'ai voulu dire, c'est effectivement la deuxième alternative que vous proposiez, c'est-à-dire que les troubles que présente le schizophrène dans cette sphère-là, dans ce domaine-là, sont une espèce d'aggravation d'un aspect constitutionnel de notre moi intime, c'est qu'on méconnaît un grand nombre de choses qu'on fait. Et donc, c'est valable aussi bien pour tous les aspects de notre qui se déroulent dans notre pensée et dans notre mémoire et dont on ignore complètement le déroulement, avec cette conscience lacunaire qui est typique, je crois, de notre être intérieur. Alors c'est pareil pour la connaissance de soi. On a un grand pan de notre conscience de soi de notre être qui se déroule de façon complètement automatique, et on en a là aussi une conscience très lacunaire et très imparfaite.
Mais pose une question, je crois. C'était quoi déjà? Avec Hans Jonas.
Avec Jonas, oui. En un mot, pour qu'on puisse prendre la dernière.
Bon, il n'y a rien. Sur Hans Jonas, la dimension la plus passionnante pour moi, c'est la définition aristotélicienne de l'éthique, qui est omniprésente dans l'éthique actuelle, parce que c'est de là dont nous sommes héritiers. En tout cas, s'il y a vraiment des lieux de développement, c'est venu entre autres de l'aristotélisme. Et l'éthique n'est possible, je vous rappelle, dans toutes les définitions données, que par rapport à des individus et par rapport à des systèmes techniques qui sont toujours en second plan par rapport à la question éthique. Or, le problème que pose Jonas, c'est est-il encore possible d'exercer ou d'avoir un comportement éthique là où les systèmes techniques prennent le pas absolument partout ? Sur la question, par exemple, de la naissance, des fécondations in vitro, etc. Question, je voudrais simplement donner un exemple sur la question de l'arrêt Perruche, par exemple. C'est extrêmement passionnant de voir qu'il y a ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, les politiques essayant de répondre, et qu'absolument aucun observateur n'a parlé du troisième terme, c'est-à-dire les filières techniques. C'est-à-dire qu'en 30 ans, on est passé de la fécondation in vitro les fécondations in vitro avec implantation, ensuite avec des analyses génétiques, etc. Et donc un destin, excusez-moi le mot, de l'embryon humain totalement modifié. Qu'en est-il ? C'était ça la question de Jonas. Maintenant, je voudrais simplement terminer en ce qui me concerne par une chose, c'est que je n'ai pas développé ce que j'essaye de faire sur quelles sont les sources du déferlement. Parce que ça, donné comme je l'ai présenté, voudrait dire qu'il s'agit d'un discours politique quelque part. Il y a des sources à rechercher, à mes yeux, du déferlement, et j'ai indiqué des lieux sur l'autonomie des techniques et sur le caractère faustien des sciences occidentales. Cela dit, en arrière-plan, il est clair que la question posée, c'est la possibilité que les hommes des prochaines générations, j'aimerais beaucoup voir ça, mais je ne le verrai pas, réfléchissent sur la question que je me pose, c'est-à-dire les sociétés industrielles comme un passe culturel.
Bien. Alors, toute dernière question.
J'ai un simple mot à dire. Je ne suis pas sociologue, mais j'ai beaucoup travaillé et publié sur la notion de l'origine des espèces. Et quand vous avez discuté de la question de l'origine de l'homme par rapport aux premiers instruments, aux premiers outillages, ben je vous dirais qu'on est absolument incapable à l'heure actuelle de définir l'homme par rapport à cela. Le chimpanzé a des outils, je ne dis pas très développés, mais enfin relativement développés. Vous savez très bien, tout le monde le sait, qu'il est capable d'aller chercher des fourmis avec des petits bâtons, et qui plus est, il y a eu un travail là-dessus. On a mesuré, on a examiné la taille de ces bâtons, on s'est aperçu que c'était à peu près les mêmes, qu'ils avaient presque une structure industrielle. Je ne dis pas qu'ils les faisaient en série, n'exagérons rien. Mais enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout n'importe quoi. Et alors, il y a une deuxième chose que je voudrais rajouter. Je suis très scientiste, dans le fond. On parle beaucoup du déferlement des techniques. C'est très bien de critiquer le déferlement des techniques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un danger public, les techniques. Il n'en est pas moins vrai que les hommes vivent tous à des âges avancés, se portent fort bien à 80 ans, en tout cas moi je ne me porte pas trop mal, et je représente la moyenne des gens de 80 ans, et qu'au fond, vous avez là un très bon critère pour choisir la valeur des techniques, c'est que tous les hommes cherchent à vivre le plus vieux longtemps possible, et le plus longtemps possible. Or actuellement, ils vieillissent tous un trimestre de plus par an, ce qui est, à mon avis, une excellente chose, une excellente conséquence du développement des techniques. Excusez-moi d'avoir dit ça.